écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vendredi 21 janvier 2022, ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Toujours content de vous retrouver chaque semaine. Et cette semaine, décider d'en rire plutôt que d'en être triste, puisque la planète politique québécoise a été particulièrement particulièrement fertile cette semaine. Ne serait-ce que l'annonce de Anne Cazabonne en tant que candidate pour Éric Duhaime dans l'éventuel partiel de Marie-Victorin. Elle qui réformera le système de la santé au grand complet et qui remettra la démocratie en marche. Rien de moins. Si on suit aux intentions de sondage, c'est pas gagné d'avance, mais en tout cas, ils sont bien fiers et bien contents. En tout cas, Éric fait jaser de lui cette semaine, puis il en est extrêmement content de tout ça. Et sinon, pour revenir au gouvernement principal, il y a deux ministères qui ont dû fermer leurs portes dans les dernières semaines, soit le ministère des Nordiques de Québec et le ministère des Expos de Montréal. Puisque François Legault, avant Noël, était parti sur une chire où il voulait absolument des équipes sportives financées à même le gouvernement, ou en tout cas en très grande partie, et devait rencontrer début janvier Gary Bettman et Bill Daly, ou du moins Éric Girard devait s'en charger, ministre des Finances. Tandis que pour le baseball à Montréal, c'est Pierre Fitzgibbon qui devait s'en charger. D'où ministère des Expos, ministère de la LNH. Et ce qu'il avait fait dire à François Legault également avant les fêtes, s'il y avait une ligue de pétanque qui serait rentable et qui ferait rayonner le Québec, on la financerait aussi. Pour l'anecdote, il y a effectivement Pétanque Québec qui s'était soumis, mais il n'avait pas l'air d'avoir eu de retour d'appel depuis. Bref, dans un premier temps, il y avait une rencontre Zoom, sauf erreur, entre Éric Girard et Gary Bettman pour discuter de l'éventuel retour des Nordiques à Québec. Et ça se passera pas. C'est un échec. Rencontre cordiale avec messieurs Bettman et Daly. Nous avons exprimé notre intérêt pour une franchise de la LNH à Québec et démontré que ceci serait un atout important pour la Ligue. La LNH a grandement apprécié notre démarche et indiqué ne pas être en position présentement pour répondre positivement à notre intérêt. Nous avons convenu de demeurer en contact et de garder les canaux de communication ouverts. De leur côté, Bettman et Daly ont également réagi en disant « Nous avons une rencontre cordiale avec Gérard et Côté ce matin, durant laquelle ils ont exprimé une fois de plus la passion du Québec pour le hockey et l'intérêt profond de la ville pour un retour dans la LNH. Bien que nous sommes flattés de cet intérêt, nous leur avons expliqué qu'il n'y avait pas d'opportunité présentement. Nous apprécions que les lignes de communication entre les parties aient été rafraîchies et nous resterons en contact au cas où les circonstances le demanderaient à l'avenir. » Ce qui veut dire, ça n'arrivera pas, oubliez ça. « Don't call us, we'll call you », comme le marque à la joke l'auteur de l'article en question. Donc, premier revers pour tenter d'être populaire et de ramener du sport au Québec, quoique les jeunes ne peuvent toujours pas pratiquer de sport eux-mêmes en ce moment. Un peu ironique, mais quand même. Il n'y aura pas non plus de garde partagée entre Tampa et Montréal et il n'y a pas vraiment de plan B, a dit Stephen Bronfman, déçu, fatigué, bouleversé. Pauvre monsieur. Au vu d'une nouvelle difficile à digérer, il était bouleversé. Exprimé le meneur de groupe baseball Montréal. Montré à plusieurs reprises dans sa conférence jeudi hier. C'est que le comité exécutif de baseball a finalement décidé de ne pas aller de l'avant avec le projet d'un club en garde entre Montréal et Tampa. La nouvelle, d'abord rapportée par la presse et le Tampa Bay Times, a été confirmée par le propriétaire des Rays de Tampa Bay, Stuart Strandberg, jeudi après-midi, avant que Bronfman ne prenne la parole quelques heures plus tard. « On y croyait tellement dans ce plan-là. Des villes sœurs avec Tampa », a déclaré l'homme d'affaires montréalais. « La mine souriante, mais déconfite. On n'a vraiment pas de plan B. On va laisser la poussière retomber. » Le retour du baseball à court, moyen, long terme vient d'être contrecarré, on va dire ça comme ça. Le projet est mort dans l'œuf, comme on peut dire aussi. De l'autre côté de l'écran, l'homme affiche un mélange de bonhomie et de désespoir. Il faut y dire qu'il travaille depuis 2016 à ramener le projet. C'est difficile à digérer. Ils ont dit oui à tellement de fois et finalement, ils ont dit non. On a fait beaucoup de travail, on a amassé beaucoup de données. Je suis un peu déçu. Bronfman aimait l'idée avec les... aimait l'idée de travailler avec les Rays. Il considère que Stuart Strandberg est un des meilleurs opérateurs de la Ligue, mais l'idée de gérer une franchise à lui seul ne l'enchantait pas. Est-ce que je veux exploiter une franchise? J'ai déjà un emploi. Je suis fatigué et un peu frustré. On avait quelque chose de tellement bien. Pourquoi le baseball majeur a-t-il seulement décidé de freiner? Le projet avait reçu l'appui du commissaire Rob Manfred tout juste avant la pandémie en 2020. Pour Stuart Strandberg, propriétaire des Rays de Tampa, le baseball majeur n'est pas prêt à se lancer dans l'aventure d'une garde partagée. Surtout, deux frontières avec la frontière américaine et canadienne. C'est sûr et certain que c'est pas particulièrement l'idéal de ce temps-ci, surtout s'il faudrait se mettre en quarantaine lorsqu'il faut arriver au Canada. Fait qu'il y a comme un espèce de... Ouais, ça marche et ça marche pas vraiment. En tout cas, ce projet-là aurait était déjà un petit peu moins pire parce que le gouvernement était impliqué, mais il n'y avait pas tant de... c'est pas vrai. Il voulait faire un stade. Qu'est-ce que je dis là? Il voulait faire un nouveau stade pour accueillir une équipe en garde partagée qui allait sûrement pas pouvoir venir régulièrement au Québec à cause des restrictions sanitaires. Major League Baseball, il se trouvait que c'était une bonne idée pour le sport. Les mentalités ont évolué. Ce n'est que récemment que les choses se sont détériorées. On ne sait pas trop pourquoi. Ce n'était finalement pas quelque chose qui intéressait la MLB. Je mettrais quand même un 2 sur la pandémie. Ça, quand si ça avait été discuté au début 2020... Ça a changé en 2 ans, hein? Fait que pour l'instant, on trouve que la nouvelle est décourageante à Montréal. Il a ça tout de même, ça c'est Bronfman qui parle. Son but a toujours été et reste de faire prospérer les Rays à Tampa. On a toujours dit vouloir garder l'équipe ici pour des générations et des générations. Le propriétaire des Rays a d'ailleurs salué le travail de l'équipe de Montréal. Le groupe Baseball Montréal était aussi anéanti que nous, sinon plus, a-t-il déclaré. Fait que voilà. Valérie Plante. En réaction, je salue les efforts de groupe Baseball Montréal et la passion de M. Bronfman pour sa ville. Comme mairesse, je dois prendre acte de la décision de la MLB et poursuivre la planification du secteur hautement stratégique du bassin Peel qui ne peut plus attendre pour accueillir des logements et des entreprises que nous avons besoin pour le développement de notre ville. Donc, pas de baseball à Montréal. Pas Nordique à Québec encore. C'est un assez gros revers niveau de la CAQ, on va dire ça comme ça. Les derniers sondages n'ont pas particulièrement été bons non plus. Au sens où il y a une baisse dans le cas de François Legault depuis les derniers sondages, même que la presse ce matin publiait un sondage d'opinion sur êtes-vous d'accord avec les mesures en place, êtes-vous d'accord avec la gestion du gouvernement et tout ça. Et plus ça avance, moins les gens embarquent dans le... moins les gens embarquent dans le bateau. Au vote populaire, c'est une baisse quand même assez importante, on va dire ça comme ça. Les derniers sondages enlevaient beaucoup de points à François Legault. Si on en parlait cet été où la CAQ pouvait faire un score dominant de 100 à 105 députés, maintenant on parle d'un 94, donc déjà là il a perdu 6 joueurs si tout va bien dans le cas de la coalition Avenir Québec. Le moins bon score qu'ils peuvent faire en ce moment, c'est de 75. Ce qui veut dire quand même la majorité, parce que la majorité est à 63, mais on passerait quand même à un minimum, entre guillemets, de 75 députés, ce qui donne la balance au Parti libéral, à Québec solidaire, au Parti québécois malgré tout. Et peut-être un petit peu Éric Duhaime, mais c'est pas encore fait non plus. Pour l'instant, la seule région où le Parti conservateur d'Éric Duhaime parle un peu plus à l'électorat, c'est dans la grande région de Québec. Et ce qu'on entend par région de Québec, c'est... Est-ce qu'on inclut la Beauce là-dedans? On n'inclut pas la Beauce. Donc, c'est vraiment Québec, Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Donc, on ratisse quand même assez large, mais autour de la ville. Pour l'instant, c'est assez solide pour la CAQ un peu partout, sauf 3 exceptions. Taschereau, avec Catherine Dorion, évidemment. Elle devrait survivre à la vague turquoise. Où ça se complique, c'est Jean Lesage, où c'est serré entre Sol Zenati et la coalition Avenir Québec. Et où ça pourrait être favorable à Éric Duhaime, selon les projections de sondage, c'est la circonscription de Chauveau. Puisqu'en ce moment, le député sortant, éventuellement sortant cet été, Sylvain Lévesque, conserve la première position avec 39% des intentions. Mais le Parti conservateur suit de très près à 32%. Est-ce que Est-ce que Éric Duhaime serait capable de créer la surprise et de se faufiler à la prochaine élection? La question se pose malgré tout. Pour l'instant, à part dire le contraire de François Legault, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans le programme du Parti conservateur. l'élection et la campagne électorale va énormément être importante. Et c'est ce qui pourrait peut-être faire balancer le pouvoir du côté d'Éric, s'il réussit à proposer quelque chose à un moment donné, ou si finalement, par la peau des fesses, Sylvain Lévesque réussit à se faire réélire, mais avec un petit pourcentage. Parce que pour l'instant, 39-32, c'est serré, mais pas tant. Et c'est quand même une assez bonne remontée, puisque il y a un peu moins d'un an, le Parti conservateur était à peine à 18%, tandis que la CAQ était à 52. Ça, c'était il y a 6 mois, en mai 2021. 7 mois. Fait qu'on est rendu déjà à un 32-39 pour le Parti conservateur. C'est encourageant pour Éric. Ça lui donnerait une certaine légitimité, du moins plus qu'en ce moment, avec une joueuse d'arrière-ban qui a défroqué et qui est passée du côté d'Éric, la personne de Claire Samson. Claire Samson, qu'on savait qu'il ne reviendrait pas, mais qui a confirmé finalement qu'elle ne reviendrait pas à la prochaine élection pour la Rive-Sud de Montréal. Mais ça reste à suivre. Il y aurait peut-être une petite possibilité dans Chauveau, mais ce n'est pas encore tout à fait assuré et ou gagné pour Éric. Ça va dépendre de son programme, essentiellement. On s'arrête quelques instants. On s'en va en musique avec Dragueur Kamikaze. J'aimerais dire qu'il y a un lien avec Éric, mais peut-être pas. Ben, quoique... miser sur les gens fâchés seulement, c'est assez kamikaze. Bref, Gasoline en musique tout de suite sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. All right, bring it in. Service. J'en ai parlé brièvement en ouverture, mais ça vaut quand même la peine d'aller si d'aller y porter attention. Donc, il y a un sondage qui est sorti ce matin du côté de la presse où on demandait aux Québécois satisfaction, leur satisfaction au niveau du gouvernement. Donc, si en début de pandémie, François Legault obtenait une note de 8,6 sur 10, donc en accord avec ses mesures et avec la gestion qu'il en faisait. Il y a un an, en janvier 2021, on était déjà descendu à 6,5. Et aujourd'hui, 2022, on est à 5,9. Donc, ça va de moins bien. En tout cas, tout va moins bien, y compris François et ses décisions un peu loufoques à l'occasion. Sondage réalisé du 14 au 17 janvier témoigne d'un ras-le-bol certain envers la COVID, mais de l'adhésion aux mesures sanitaires encore plus élevée dans ce cas-ci. Comme je le disais, on est parti d'un 8,6 en mars 2020 pour finir à 5,9 en janvier 2022. Janvier 2021 est à 6,5. Donc, un sondage pas commandé par François Legault cette fois-ci pour donner peut-être un son de cloche un peu plus juste de l'adhésion et de la satisfaction, entre guillemets, de la population. Parce qu'on se souviendra que François Legault et la coalition Avenir Québec ont, depuis qu'ils sont au pouvoir, commandé énormément de sondages à l'interne pour avoir le pouls d'une certaine population, ou en tout cas de gens qui adhèrent peut-être un petit peu plus à la coalition Avenir Québec. Donc, quand François Legault arrivait en disant « Les Québécois sont avec nous, ben, il était peut-être un petit peu trié sur le volet aussi. Peut-être que ceux qui donnaient des bonnes notes à François Legault avaient accès à plus de questions du sondage que ceux qui étaient mécontents. On sait jamais. Des fois, les sondages, ils peuvent s'interrompre brutalement quand on répond pas la bonne réponse à une question. C'est une théorie plus qu'autre chose. Dans ce cas-ci, là, c'est pas scientifiquement prouvé, mais le bout où François Legault commande beaucoup de sondages pour voir dans quoi le monde embarque et dans quoi le monde n'embarque pas, ça s'est reflété à l'occasion dans ses décisions et dans les trucs qu'il fermait ou gardait ouverts. Le message gouvernemental passe encore, mais les gens sont encore prêts à faire des efforts, mais ce ne sera pas de gaieté de cœur. On sent une résilience. Les jeunes de 18 à 34 ne donnent en moyenne que 4,5 sur 10 au gouvernement Legault, alors que techniquement le groupe d'âge a beaucoup voté pour la CAQ aux dernières élections. Ce qui m'a toujours fasciné d'ailleurs, parce que de plus en plus, les 18-34 ne sont plus rejoints, n'étaient pas rejoints par la CAQ, me semble, mais ils ont quand même voté en une assez bonne proportion. De question en question, on voit clairement que ce sont les 18-34 qui désapprouvent les interdictions et qui craignent un peu moins la maladie. Bon, ça c'est l'insouciance de la jeunesse, évidemment. 86% des personnes interrogées se disent d'accord avec l'affirmation « C'est notre devoir à tous de devoir suivre les règles de la santé publique. Nous devons faire notre part pour arrêter la pandémie. » C'est vrai. Si tout le monde y met du sien, ça devrait bien aller. Ce taux est un peu moins élevé qu'en 2021, année où il n'y a jamais descendu en bas de 91. Mais bon, 86-91, c'est pas si mauvais non plus. C'est loin d'être une chute radicale. Les gens pensent qu'il y a encore un bout à faire avant de s'en sortir de cette pandémie. Ce qui est assez normal aussi. Parce qu'on a posé la question. À quand pensez-vous un « retour » entre guillemets à la normale? Les gens sont assez unanimes que ça va prendre d'ici une à deux à plus que ça. Ça se réglera pas du jour au lendemain. Ça, c'est sûr et certain. Mais, encore une fois, qu'est-ce que c'est un retour à la normale à cette heure? La question se pose quand même un petit peu malgré tout, mais c'est clair qu'il y aura certaines choses qui vont avoir été changées complètement, ne serait-ce que le travail. Ça, c'est clair que ça va être l'une des manières qui va avoir changé le plus radicalement, on va dire ça comme ça. sur le respect des mesures sanitaires, malgré les nouvelles mesures pour freiner la propagation de la COVID, je vais suivre à la lettre ce que le monde demande de faire. On compare entre janvier 2021, où on était très en accord, à 58% en accord, assez en accord à 31%, donc globalement en accord à 89%. Et là, un an plus tard, janvier 2022, on a seulement 42% très en accord et 38% assez en accord. Ce qui nous fait quand même un score de 80%. Mais on reste très loin du score de 89%. On perd des points. On perd beaucoup de pointage à l'heure actuelle. Le tiers de la population estime maintenant que la COVID est pas aussi dangereuse qu'on l'entend. Faut faire attention, c'est Omicron qui est un peu moins dangereux. Mais d'avoir la COVID longue, c'est encore problématique. Et encore une fois, c'est la population qui est interrogée. C'est pas selon des scientifiques. Faut faire attention un peu à ça aussi. Le huis clos ne passe pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le petit couvre-feu de janvier a fait mal à la coalition Avenir Québec. Ça, c'est définitif. Degré d'accord quant à l'interdiction des rassemblements privés à l'intérieur et à l'extérieur du domicile, à l'exception des personnes seules, visites de soutien. Très en accord, 26. Assez en accord, 35. Ce qui nous amène à 59. C'est pas si mal. Mais 59%, c'est pas une majorité très écrasante non plus. Les gens sont un petit peu tannés. Passeport vaccinal est quand même accepté. Ça, c'était quand même intéressant à surveiller parce que là, la question se pose, évidemment. On a demandé, est-ce que vous êtes très favorable à ce que le passeport soit en vigueur à la SAQ, la SQDC? Les gens disent oui. Les grandes surfaces disent moyennement oui. Et pour tous les commerces, les gens sont un petit peu moins d'accord. Donc, il y a une acceptation, mais ce n'est pas une unanimité. Et après ça, évidemment, c'est extrêmement politique. Donc, qui a raison? Qui va gagner plus qu'un autre? La question se pose, mais il faut faire attention quand même. Par rapport à il y a un an, je me sens un peu plus déprimé, triste ou stressé. Octobre 2020, il y a eu une petite augmentation quand même pour 2022. Où le très en accord. OK, ah voilà, je lisais à l'envers. Donc, par rapport à il y a un an, je me sens plus déprimé, triste ou stressé. Les gens très en accord en 2020 étaient de 11%. En 2022, on est rendu à 15. Les gens assez en accord passaient de 25 à 29, ni plus ni moins 30 à 32. Fait que il y a un écœurantite, ça c'est clair. Il y a des décisions qui sont questionnables, ça c'est clair. Est-ce que ça va continuer comme c'était en 2020? Probablement pas. 2020, même 21. Est-ce que les gens continuent à suivre? De moins en moins. Ça devient un petit peu complexe. Mais, heureusement, les gens continuent à mettre l'épaule à la roue. La troisième dose est maintenant disponible, donc allez la chercher lorsque vous êtes capable d'aller la chercher. Si vous pouvez aller la chercher aussi, c'est important. Oui, c'est sûr qu'on continue à faire attention, on a hâte. À peu près tout le monde a hâte que ça se termine finalement, ou en tout cas qu'on passe à un autre sujet. Mais malheureusement, on a encore des belles surprises qui vont nous arriver. 2022 est particulièrement en forme jusqu'à maintenant. Donc, évidemment, à suivre pour les prochains détails, mais pour l'instant, niveau politique, ça devient de plus en plus ardu. Donc, est-ce qu'on se range maintenant un peu plus du côté de la science? Il faudrait peut-être. Mais les décisions politiques sont de plus en plus remises en question. On va dire ça comme ça. On s'arrête quelques instants. Au retour, la suite de l'actualité de la semaine, ou ici même, au deuxième service, sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Parfois, l'actualité peut sembler nébuleuse, confuse, opaque et peut mener à des questions du genre « C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? » Chiz 94.3 a la solution miracle pour toi. Écoute Un fort dans le midi tous les jours en semaine dès midi. Avec Guillaume Bédard et son équipe, on est là pour t'éclairer sur les enjeux d'actualité. Avec des chroniques, des analyses, des entrevues, du contenu pertinent et recherché. Un fort dans le midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Retour au deuxième service après Bon Enfant qu'on vient d'entendre en musique. Nouvelle qui m'avait fait particulièrement sourire au cours des dernières semaines, c'est une naissance quand même assez particulière puisque ce sont des jumeaux qui sont nés au début de l'année et à la fin de l'année dernière. Ils sont nés à 15 minutes d'écart. Mais, comble de l'ironie, il y en a un des deux que c'est le bébé de l'année, mais il y en a un qui a techniquement un an de plus que l'autre. Bon, il y a 15 minutes d'écart, mais ça fait quand même deux jumeaux qui seront nés le 31 décembre et le 1er janvier, puisque en Californie, 15 minutes d'intervalle sépareront les deux enfants, l'un né en 2021, l'autre en 22. Alfredo Antonio Trujillo est né à 23h45 le 31 décembre 2021. Minuit 1, sa sœur, Aileen Yolanda Trujillo, le rejoignait le 1er janvier 2022. Selon des estimations citées par le Centre médical Natividad à Salinas, les nourrissons ont vu le jour, il n'y a qu'une chance sur 2 millions pour que des jumeaux naissent dans deux années différentes. Ça me paraît dingue qu'ils soient nés jumeaux tout en ayant des dates de naissance assez distinctes. C'est un immense plaisir d'aider ces petits arrivés sainement en 2021 et 22, a réagi de son côté la docteure Anna Abril Arias, pour qui cela restera un souvenir des plus mémorables. Selon les autorités sanitaires, environ 120 000 jumeaux naissent chaque année aux États-Unis, soit environ 3% des naissances totales, donc qui sont multiples dans ce cas-ci. Et là-dessus, bon, voilà, j'avais un deuxième article, mais qui est exactement de la même source, donc ce sont exactement les mêmes lignes dans les deux articles, mais ça reste quand même particulier. Donc les deux jumeaux qui sont nés techniquement à deux dates différentes, mais en plus, c'est deux années différentes. Parce que, bon, des jumeaux qui naissent une journée et une autre dans la même année, c'est quand même en tout cas, c'est une chance sur 2 millions. Fait que c'est quand même assez particulier. Comme quoi, il y a toujours des gens qui sont prêts à payer cher pour pour certains trucs. Une édition spéciale de Pokémon a enflammé les enchères sur Internet, puisque la compagnie Oreo a ressorti ses biscuits à l'effigie des Pokémon. Et pour être un petit peu comme dans les cartes à jouer, j'imagine, certains Pokémon étaient plus courants que d'autres dans les dix biscuits Oreo. Sur le site des enchères eBay, on trouve plusieurs paquets dont la vente a rapporté entre 20 et 1200 $, alors que le prix en épicerie est d'environ 5 $. Un Pokémon extrêmement rare dans le jeu, tout comme dans les biscuits Oreo en le personnage de Mew, se retrouve dans les biscuits. Mais Mew est assez rare comme biscuit. Donc, ils ont vraiment joué sur la question de rareté, j'ai l'impression, en faisant la commercialisation à nouveau des biscuits Oreo Pokémon, parce que, me semble, dans le temps, 2001, 2002, 2003, ça serait leur genre d'avoir fait ça. Donc, ils l'ont refait plus récemment, 2021. En ce moment, ou plutôt il y a quelques semaines, quand l'article a été publié, on retrouvait des biscuits Mew, ou du moins qui avaient l'effigie de Mew, le moins brisé le plus possible, étaient en vente à près de 20 000 $ canadiens, du moins qu'on demandait comme prix, mais qu'en réalité, on avait quand même déjà atteint 1 000 Et c'est ça que je dis quand les gens sont prêts à acheter un peu n'importe quoi. Il est en vente, 20 000 $ Mais on a pour l'instant, on avait pour l'instant 1 000 quand même, qui avait été rapporté. Donc les gens, quand on le dit, qu'ils sont prêts à payer un peu n'importe quoi, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé sur Internet, du côté de eBay. Et sinon, une nouvelle assez sympathique, ben en tout cas, sympathique. Façon de le voir. La police de la région de York recherche un homme accusé d'avoir volé une guitare en la cachant dans ses pantalons. Les policiers de la banlieue de Toronto, de York, sont à la recherche d'un homme accusé d'avoir volé une guitare d'une valeur quand même de 8 000 $ en la cachant dans son pantalon. Un exploit filmé sur une vidéo de surveillance. Selon la police régionale de York, le vol présumé a eu lieu le 20 décembre dernier et a été signalé seulement 10 jours plus tard. Selon les policiers, un homme est entré dans un magasin de musique à Richmond Hill, en Ontario, a mis la guitare électrique Gibson Custom Shop 60 Anniversary, année 59, Les Paul Standard, dans ses culottes et a quitté le magasin. Une vidéo partagée par la police montre un homme assis sur un tabouret dans le magasin qui glisse la guitare tête et manche en premier dans son pantalon. Donc, il était assis et réussit comme à le cacher dans son dos, on va dire ça comme ça, et il se lève tranquillement. Donc, il a techniquement, bon, on dit tête et manche en premier, donc techniquement, il a le dos de la guitare dans son dos à lui, et le manche va jusqu'en descendant le long de sa jambe. Comment il a réussi ça? La question se pose. Et là, bien évidemment, il fait semblant comme si de rien n'était. Il essaye d'autres guitares et s'en va. Le gars, évidemment, est en pantalon de jogging, donc ce qui peut expliquer l'espace, entre guillemets, dans ses pantalons. Dans la vidéo, il prend ensuite une autre guitare et semble la gratter, puis la redépose et quitte finalement la boutique. La police affirme qu'après avoir quitté le magasin, l'homme est monté dans un véhicule conduit par un autre suspect. Il décrit le premier comme étant un homme d'une vingtaine d'années portant un pantalon extrêmement large et ample. Merci, police de Toronto, pour cette belle description. Effectivement, ça semble être un pantalon de jogging tout à fait ordinaire, mais du moins qui est capable de contenir une guitare complète. Comme je le disais, c'est tout à fait loufoque, mais ça semble être quelque chose qui se réalise. Mais une guitare à 8 000 $ de même, ça ne se revend pas nécessairement facilement non plus. Donc voilà pour ça, ça se passait du côté de la région de York, donc du côté de Toronto. On s'arrête quelques instants. Au retour, la conclusion de cette émission du 21 janvier 2022. Chose sauvage avec Chambre d'écho, tout de suite en musique. De retour au deuxième service. Comme quoi, le changement de garde va être peut-être un petit peu périlleux dans les prochaines semaines. Donc, on se souviendra que Horacio Arruda a quitté ses fonctions dans les derniers jours. Il y a notamment une citation de lui qui a refait surface, qui disait « La journée que je suis en tiré, c'est un peu n'importe quoi, je sacrerai mon camp. » Chose qu'il a fait récemment. Ce qui fait en sorte que il y a un nouveau docteur est venu le remplacer, le docteur Luc Boileau, qui est nouveau directeur de la santé publique depuis peu. Hier, dans une conférence qui annonçait rien du tout, François Legault a pris la parole pour dire qu'on ne peut pas se permettre d'assouplir davantage, déclaré en conférence de presse en après-midi, et ce, malgré la petite baisse d'hospitalisation annoncée dans la journée. Accompagné de Christian Dubé et du docteur Boileau, Legault a reconnu être tout comme la population tannée des mesures sanitaires. Il a toutefois fait valoir qu'il se devait de suivre les recommandations de la santé publique. Ce qui arrive, c'est que les recommandations de la santé publique ont l'air d'avoir changé depuis, puisque ce matin, le nouveau directeur national de la santé publique envisage un déconfinement progressif avant la mi-février au Québec. Donc, si François Legault disait que c'était pas possible de déconfiner hier, Luc Boileau est beaucoup plus optimiste et c'est le directeur de la santé publique du Québec. Je penserais que le déconfinement pourrait commencer avant la mi-février. Je crois que nous avons une capacité de lever quelques restrictions avant, a déclaré Boileau au micro de Tout un matin à Montréal de Patrick Masbouria. Je devrais en parler avec mes collègues et regarder comment il faut la situation. Ah, comme il faut. Mais je devrais en parler avec mes collègues et regarder comme il faut la situation avant de recommander ça à mon ministre et à mon premier ministre, a-t-il pris soin d'ajouter. Parce que là, il y avait probablement quelqu'un qui donnait des coups de coude de... Ouais, c'est parce que François Legault a dit exactement le contraire hier. Le nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID au Québec a plafonné, puis entrepris une légère baisse ce mercredi, passant de 3425 à 3411, d'après les données de l'Institut national de santé publique. Cette tendance se poursuit alors que le bilan vendredi fait état de 60 lits libérés. Pour une durée totale de 3351 patients hospitalisés en lien avec la maladie. Des données réconfortantes, c'est pas encore le gros lousse, mais c'est déjà un bon petit début. Il faut suivre ça pendant les quelques prochains jours et après ça, je suis assez sûr qu'on va être capable de proposer un plan qui va, j'imagine, satisfaire beaucoup. En conférence de presse, bon voilà, il y a un ras-le-bol chez les commerçants selon Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Les commerçants sont en détresse depuis très longtemps et risquent des dommages irréparables, a-t-il soutenu en entrevue RDI vendredi. On demande au gouvernement de faire un exercice en toute transparence, planifier la relance, la reprise, exactement comme on le fait dans d'autres juridictions. En prenant exemple Ontario qui parle déjà de rouvrir les restaurants à 50% et les choses comme ça. Si vous avez peur de vous tromper, ben admettez-les, mais faites des plans, communiquez les plans et aidez les entreprises, les commerçants et les employés à voir venir les prochaines semaines. Parce que ce qu'on reproche notamment beaucoup au gouvernement de la CAQ, c'est de prendre les décisions et de ne pas donner le temps aux gens de se préparer en conséquence. On trouvait absurde, notamment, qu'on a eu un délai de 3 semaines pour la SAQ et la SQDC d'engager le personnel qu'il fallait pour les passeports vaccinaux, mais que les enseignants ont eu à peu près 2 jours pour faire le switch en classe virtuelle plutôt que d'être en classe présentielle mi-janvier, parce que finalement, à la dernière minute, on a reporté le début des classes. Donc, voilà, on demande plus de transparence, on demande plus de communication, on veut pas être pris au dépourvu. C'est un peu ça l'essentiel, on veut pas être pris de ah oui, faites ça là, puis datit, puis vous arrangerez avec vos troubles. On veut prendre le temps de bien faire les choses, ça c'est clair, mais ça ne semble pas être dans les priorités, du moins, de certains ministres de donner un son de cloche, donner un indice, donner du lousse, choisissez le terme qui vous fait qui vous sied le mieux. Nous comprenons qu'il y a une fatigue, a admis le docteur Boileau. C'est une variable très importante pour décider des mesures de santé publique, mais je vous demanderai un peu de patience encore à tout le monde. Donc, on tente de sauver les meubles, mais évidemment, ça devient un petit peu plus difficile toujours. En fait, de plus en plus qu'on avance dans le temps, ça devient un petit peu plus difficile dans ces cas-là. Donc, tout va bien pour le mieux, oui et non, mais en tout cas, ça pourrait être mieux, ça c'est le cas de le dire. On est au pic de la pandémie, comme les autres pays ont atteint leur sommet avec Omicron. Au Québec, on a l'air d'être pas mal dans cette étape-là, du moins depuis une semaine, on a l'air d'avoir pogné à peu près le maximum qu'on était capable d'avoir. Mais là, évidemment, plus ça avance, moins c'est facile de prévoir. On va dire ça comme ça, quoique on peut s'inspirer des autres. Mais le côté positif, entre guillemets, d'Omicron, c'est que justement, aussi rapidement qu'il est apparu, aussi rapidement il est en train de se rediminuer, ou en tout cas de redevenir plus neutre, on va dire ça comme ça. Mais malheureusement, ça fait partie des aléas, puis bon, ça sera pas la première variation à laquelle on va être confronté. Ça, c'est sûr et certain. Il risque d'y avoir d'autres variations comme ça. Seront-elles aussi importantes qu'un micro en ce moment? On l'espère que non, ça c'est sûr et certain. Du moins que ça soit pas plus dommageable tel un Delta, mais de continuer de faire attention. Je pense que c'est le mot d'ordre qu'on peut espérer et conserver. On va dire ça comme ça. C'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici même, sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke. À la semaine prochaine. Salut!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h. Sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Becci.
Tous les jours, on en fait. Tous les jours, on en parle. Mais on s'en rend pas compte. En fait, c'est un peu inconscient. Notre vie en société est marquée par, eh oui, la politique. Chiz 94.3 accueille les mercredis juste de la politique, autant pour ceux qui ne la comprennent pas que pour les pros et fans finis. Avec moi, Félix Bouffard et mes collaborateurs, on décortique, analyse et réfléchit la politique locale. Allez, venez participer à la discussion. Juste de la politique, en direct les mercredis 14h et en balado sur chiz.ca.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.